Chapitre 24. La liberté est un bien précieux, un diamant. Mais les différentes couches dont nous l'avons enveloppée l'empêchent de briller. Maintenant, il nous faut retrouver son éclat en nous débarrassant sans pitié de nos terreurs, de nos certitudes, de nos réflexes et de nos insuffisances. Joseph Blotard, de la vie en cité unifiée. Cité unifiée de Nilopa.
Vous avez encore contrevenu à mes ordres, mademoiselle.
Des éclats de fureur perçaient dans la voix de Caton. Mina frissonna. Persuadée que ses jours étaient comptés, elle avait contacté un médialiste dans un domaine crypté, lui promettant des révélations sensationnelles, estimant que le grand déballage médiatique était la seule façon de se sortir des griffes de Caton et de ses complices. Mais la cité était devenue une oreille géante. Sa conversation avait peut-être été interceptée. Elle prit une profonde inspiration pour rétablir le calme en elle.
Le fouineur Ganesh Parvati est sur le point de sortir du périmètre de la cité, monsieur. Mon devoir était de l'en avertir. Votre devoir, mademoiselle, est d'exécuter les ordres de vos supérieurs. Je suis une gémine, monsieur, contrainte par serment d'assister le fouineur dont j'ai la responsabilité. Votre serment, vous pouvez vous le mettre au... Quelle importance, de toute façon. Nous avons perdu sa trace. Vous avez perdu sa trace.
Vous voulez dire que vous... Vous savez où il est ? Le rire de Caton emplit d'éclats blessants la cabine de Mina. Elle contempla dans les parois souples les écrans qui réagissaient à ses mouvements oculaires. Il lui suffisait d'ouvrir les yeux pour obtenir un grossissement immédiat du point qu'elle fixait. La première fois qu'elle s'était installée dans la cabine et qu'elle avait branché les cordons des matrices dans ses récepteurs neuronaux, elle avait eu la sensation grisante de battre avec le cœur secret de la cité.
Ganesh Parvati est un élément trop précieux pour que nous le perdions dans la nature, reprit Caton.
Comment pouvez-vous le localiser si les matrices ne captent plus sa biopuce?
Disons que notre filet est plus large que le vôtre, mademoiselle.
Les matrices sont déjà reliées aux satellites. Je ne vois pas ce qui...
Ne cherchez pas à savoir. Cela ne vous regarde pas.
Si vous n'aviez pas besoin de mes services, pourquoi m'avoir ordonné de rester en permanence focalisé sur Ganesh Parvati?
Nous avions besoin de vous un temps.
Puis, la technologie a évolué. La vitesse à laquelle elle évolue est d'ailleurs sidérante. Allez-vous me relever de mes fonctions?
Il semble effectivement que le temps soit venu de nous séparer, mademoiselle.
Le sang de Mina se glaça. Les lumières tapissant les parois de la cabine lui apparurent soudain comme des yeux de prédateur guettant une proie. Une intuition lui souffla de débrancher immédiatement les cordons des récepteurs foré à la base de son occiput.
Je vais enfin pouvoir reprendre ma place dans le corps des gémines.
Tout en prononçant ces mots d'une voix aussi neutre que possible, elle avait placé ses mains derrière sa tête et saisi les embouts métalliques des cordons.
Nous avons une idée claire de votre prochaine affectation, mademoiselle.
De la jubilation dans la voix de Caton.
Permettez-moi de vous la communiquer.
Elle tira d'un coup sec sur les cordons matriciels. Comme à chaque fois qu'elle sortait du flot de données, elle eut l'impression détestable d'être expulsée d'un bain chaud et rassurant, d'un ventre maternel, de passer dans un monde dur et blessant, le monde de la matière. Elle espéra que les stimulants de zen qu'elle avait ingurgités depuis plusieurs semaines continueraient de produire leurs effets quelques heures. Elle entrevit les lueurs bleutées des décharges énergétiques qui fusaient des extrémités des cordons et qui, si elle était restée reliée, lui aurait grillé le cerveau. Elle en savait trop sur Caton et les siens. Les expériences menées sur le fouineur Ganesh Parvati avaient un lien avec le projet criminel des ombres, que Caton lui-même était une ombre. Il l'avait condamnée. Elle devait parler avant qu'il ne soit trop tard, apparaître en pleine lumière pour ne pas être exécutée dans l'ombre. Elle sortit dans le couloir. Personne dans le passage bordé de chaque côté des cabines des autres gémines. Le bourdonnement feutré ne parvenait pas à briser le silence qui enveloppait le bâtiment. Mina eut besoin d'un petit moment pour rétablir la coordination entre son cerveau et son corps. Comme un enfant effectuant ses premiers pas, elle se dirigea d'une démarche encore vacillante vers la sortie du bâtiment. Première étape, se débarrasser de sa biopuce, devenir une indétectable, une clandestine. Elle connaissait des membres du mouvement Disparition, et savait comment les contacter. Seconde étape, alerter les médias sur les intrigues qui se tramaient dans les coulisses du pouvoir et sur le rôle du responsable du corps des fouineurs. Troisième étape, s'effacer de la vie citadine, s'insérer dans l'un de ces réseaux qui se développaient dans les zones obscures de la cité. Elle traversa le hall sans croiser ni consoeur ni membre du personnel administratif. N'étant pas ouvert au public, le bâtiment, que les Gémines appelaient la ruche, ne disposait pas de comptoir d'accueil ni de salle d'attente. C'était un bunker doté des outils d'identification les plus performants. Les détecteurs se reliaient directement aux biopuces, les associaient aux séquences génétiques et ouvraient les portes. Mina se retrouva sans aucune difficulté dans la rue Saint-Honoré, qui semblait avoir essuyé une terrible tempête. Elle se rappela les images des émeutes relayées par les écrans de sa cabine. La population rendue folle par les vagues de meurtres des ombres ruait comme un animal sauvage en cage. Elle inspecta les environs du regard, ne détecta aucune silhouette suspecte et hâta le pas vers la bouche de la station de métro, avec l'effrayante sensation de déambuler dans un monde où la mort pouvait surgir derrière chaque recoin, chaque relief. On a dit beaucoup de choses au sujet des émeutes qui ont secoué Nilopa pendant la période des ombres. Qu'elles étaient organisées par des factions fanatiques comme la fin des temps, qu'elles profitaient à certains politiciens désireux d'instaurer un gouvernement central, doux euphémisme pour désigner une dictature, qu'elles permettaient à la population citadine oppressée de se défouler, qu'elles reflétaient une méfiance profonde à l'encontre d'un pouvoir corrompu. On a même affirmé que l'extrême violence des manifestations s'expliquait par l'infiltration d'éléments hors-site incontrôlables. Doux délire ? Paranoïa collective ? Ou dysfonctionnement répété d'un monde condamné à l'enfermement, à l'isolement ? Je les rapproche pour ma part de ces mutineries d'équipage sur les navires à voile d'une période très ancienne. Nous étions les prisonniers d'un bateau qui ne se rendait nulle part, qui dérivait sur un océan morne, sinistre. Nous étions les passagers d'un vaisseau fantôme qui, de temps à autre, traversait une tempête aussi absurde et illusoire que l'existence en cité unifiée. Ganesh contempla la galerie transformée en une immense morgue. Le rayon de sa lampe se promena sur les dizaines de corps qui reposaient à même la terre. Hommes, femmes, enfants ne présentaient aucun impact de balle, aucune lésion apparente. Ils ne semblaient pas avoir subi les mêmes déformations que Matt et Scott, que les hommes et les femmes qui s'étaient joints à eux pendant la traversée des galeries et des salles souterraines. Ils n'avaient pas les mêmes joues creuses, les mêmes yeux réduits à de minces fentes plissées, les mêmes cheveux clairsemés, les mêmes dents déchaussées. « Bon Dieu !» murmura Ava. Exactement le même spectacle qu'après le passage des ombres dans les rues de la cité, déclara Ganesh. « Ils sont arrivés récemment, précisa Matt. Ils ont demandé à rejoindre notre communauté. Nous les avons acceptés après en avoir discuté, et nous leur avons permis de s'installer dans ces galeries. Ils venaient d'où ? Ils ne nous l'ont pas dit. Vous n'avez pas cherché à le savoir ? Peu importe d'où viennent les gens, du moment qu'ils acceptent et respectent nos règles. » Ganesh s'avança vers les premiers corps et s'accroupit pour les observer. La femme et l'homme qu'il examina paraissaient jeunes, exempts de toute mutation génétique. Rien à première vue ne les aurait distingués des passants des rues de la cité, ni leur apparence physique, ni leurs vêtements. Il se releva et se tourna vers Matt. Ça ressemble bien au meurtre des ombres. Aucune cause identifiable. Ce qui signifie qu'elles sont bien passées par là, qu'elles sont extérieures à la cité. « Elles seraient hors site ?» s'étonna Matt. « On aurait dû les détecter lors de leur passage. »« Vos galeries ont plusieurs entrées ?» Scott pointa son pistolet sur Ganesh. « Leur réponds pas, Matt. Ils refileront le tuyau à leurs petits copains de la cité et ils nous enverront leurs soldats pour nous massacrer. » Matt posa la main sur le canon du pistolet, le détourna avec douceur et désigna les corps d'un geste du bras. « Va falloir penser différemment. On a le même problème, la cité et nous. Et si on n'est pas capable de le résoudre, on y passera tous. » Ganesh ressentit un frémissement à l'intérieur de son cerveau, comme si sa biopuce se réactivait. Captait-elle par intermittence les satellites en orbite géostationnaire au-dessus de la cité ? « Et qu'est-ce qu'on fout alors ?» demanda Scott. « On les conduit à l'entrée des galeries. On ne convoque pas l'assemblée pour en décider ? On n'a pas le temps, il y a urgence. » « C'est contraire aux règles !» Matt pointa un index rageur sur les alignements de cadavres. « Et ça ? C'est dans les règles ? T'en fais pas, Scott. Je prends tout sur moi.
Putain, Matt, t'es pas le chef suprême!
Des grognements d'approbation ponctuèrent la saillie de Scott. Qu'est-ce que tu prendrais comme décision? Demanda Matt. Tu attendrais que ceux qui ont fait ça visitent les autres galeries?
Scott brandit son pistolet.
On a de quoi se défendre!
Eux aussi pensaient être capables de se défendre. Moi, je dis qu'il faut pas tergiverser.
Matt désigna Ganesh et Ava.
Et aidez au mieux ces deux-là à remonter la piste. Qu'est-ce qui te prouve que c'est pas une manigance de la cité?
Insista Scott.
Les preuves, il y en a plus de 100 étalés devant toi.
Le regard incisif d'Ava croisa celui de Ganesh.
Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi. On dirait que ces morts sont issus de la cité,
chuchota-t-elle.
Ils ne sont pas différents de nous, confirma le fouineur à voix basse. Mais je ne sais pas non plus à quoi ressemblent les hors-sites.
D'un coup de menton, elle désigna Matt, Scott et les autres qui discutaient un peu plus loin.
Tu en as un parfait exemple sous les yeux. Je ne suis pas sûr qu'il faille en faire une généralité. Eux se sont adaptés à leur environnement, tandis que ceux qui ont été tués n'en ont pas eu le temps. Il y aurait bien un moyen de savoir.
Lequel ?
Ouvrir la tête d'un ou plusieurs morts et leur fouiller le cerveau. Si on trouve des biopuces dedans, on saura qu'ils viennent de la cité. Si on n'en trouve pas, on saura que les populations hors-site ne sont pas toutes sujettes aux mutations génétiques.
Pas évident de trouver une biopuce de la taille d'un grain de riz dans un cerveau. Et encore, je te parle des anciennes générations de puces. Les nouvelles sont nettement moins volumineuses.
Ava disciplina sa chevelure de ses doigts écartés.
Faudra être minutieux, c'est tout. Je m'en chargerai, si tu veux. J'ai toujours aimé les dissections.
J'aurais pu choisir la médecine légale.
Il te faudrait un scalpel ou au moins une lame bien aiguisée, et puis des gants.
Je suis certaine qu'ils ont une lame.
Quant aux gants, pas la peine d'en prendre avec les morts.
Tu regrettes plus de m'avoir suivi dans la bordure ?
La main d'Ava se posa comme un oiseau enchanteur sur la joue de Ganesh. Hormis la douleur de mon genou, je suis ravi d'être là. Manque seulement un bon thé aux épices.
Matt revint vers eux, suivi de Scott, d'un autre homme et d'une femme.
On vous conduit à la sortie des galeries.
Il n'y en a qu'une ?
On a rebouché toutes les autres. Une seule nous paraissait plus facile à surveiller.
Ils s'enfoncèrent dans le labyrinthe des galeries, traversant de vastes salles où se pressait une population nombreuse et silencieuse, croisant les portes métalliques entr'ouvertes de logements envahis de pénombre. Des hommes et des femmes apostrophèrent Matt et Scott, mais n'obtinrent que des réponses évasives. Le réseau souterrain semblait s'étendre à l'infini. Les galeries donnaient sur d'autres tunnels qui, eux-mêmes, se jetaient dans de nouveaux passages, plus étroits ou plus larges, parfois étayés par des poutrelles de béton, parfois soutenus par des voûtes de pierre. Partout régnait la même odeur de moisissure, parfois dominée par des relents fétides.
« Ça vient des fosses septiques reliées au logement, »
expliqua Matt en voyant le nez d'Ava se froncer.
« Ou bien qu'on entrepose les déchets quelque part. On les couvre de terre quand elles sont pleines, ce qui n'empêche pas les odeurs. »
Ils ne rencontrèrent bientôt plus une seule silhouette dans les recoins d'obscurité.
« La zone tampon, » précisa Matt.
« Inhabitée. Pour éviter que des signes d'activité ne donnent l'alerte à l'extérieur. Pour éviter aussi d'être soumis trop brutalement à la lumière du jour.
« C'est dingue !» s'exclama Ava. « C'est aussi grand que Paris ?»«
Peut-être plus, » avança Ganesh. « La bordure fait plus de 30 kilomètres de large tout autour de la cité. »
Ils marchèrent encore un long moment avant de s'engager dans une galerie. La dernière, selon Matt. Ganesh inspecta à plusieurs reprises le sol et les parois avec le rayon de la lampe, sans discerner une trace d'un quelconque passage d'une bande de tueurs. Il fallait une troupe plutôt fournie pour massacrer une centaine d'êtres humains en un laps de temps aussi court. Comme dans les différents quartiers de Nilopa où elles étaient passées, les ombres n'avaient laissé aucune empreinte, comme si elles se déplaçaient dans des zones parallèles. Une application inconnue de la physique quantique?
« La sortie !» déclara Matt.
Il tira de la poche de sa veste deux cercles de verre fumé reliés entre eux par des fils de fer, une paire rudimentaire de lunettes de soleil, et les plaça sur son nez, de la même façon qu'on se protège les yeux d'une éclipse. Scott et le couple qui les accompagnaient l'imitèrent.
« Sans protection, nous risquerions de nous cramer définitivement les yeux !» expliqua Matt.
La dernière galerie s'étendait sur plus de 2 kilomètres. Il leur fallut une bonne demi-heure pour la parcourir. Ava, souffrant de son genou blessé, ralentissait l'allure. Puis, une paroi bloqua leur passage.
Ganesh comprit qu'il s'agissait du système de fermeture installé par les habitants des souterrains. Scott et Matt actionnèrent des mécanismes métalliques sertis dans les cloisons, et le panneau coulissa en grinçant. Un flot de lumière s'engouffra sous la terre. Il fallut à Ganesh une dizaine de secondes pour s'accoutumer à la clarté soudaine et discerner une sorte de rampe couverte d'herbes et de buissons qui montait en pente douce vers la surface.
« Nous entretenons le chemin au cas où nous aurions besoin d'évacuer en urgence à cause d'une inondation ou d'une intoxication au gaz, mais nous lui conservons son aspect naturel pour ne pas attirer l'attention. »
Malgré ses verres fumés, Matt gardait la tête baissée, comme s'il craignait d'affronter les rayons du soleil, pourtant occulté par une épaisse couche de nuages.
« Nous ne pourrons pas rester longtemps à la surface, ou nous risquerions d'être repérés par les drones. »
Ganesh s'avança sur la rampe. Le vent sema des caresses fraîches et agréables sur son visage. Les herbes, pourtant humides, ne proposaient aucune empreinte. Il admit qu'il ne servirait à rien d'explorer les environs, pas davantage que les fouilles minutieuses effectuées dans les quartiers de Nilopa n'avaient donné de résultats. Ava se porta à sa hauteur malgré son genou douloureux.
« Ça sert à rien, n'est-ce pas ?»
Il secoua la tête.
« Je crains que non.
Théo m'a dit qu'il fallait chercher ailleurs sur le plan de la logique.
À part les extraterrestres, je vois pas.
Allons au moins jeter un coup d'œil là-haut. » Ganesh prit la main d'Ava pour l'aider à gravir la rampe. Suivi de Matt et des autres, ils gagnèrent une surface bosselée et herbeuse qui s'étendait à perte de vue. Arrivé en haut, Ava rajusta machinalement sa jupe.
« Le pays hors site, » murmura-t-elle.
« Pas tout à fait, » corrigea Ganesh. « On est encore dans la bordure. »
« On est passé de l'autre côté des filtres, tu crois ?»
Il lança un regard tout autour de lui, tentant d'apercevoir des reflets ou d'autres phénomènes qui auraient révélé la présence des filtres. Ne discerna rien d'autre que les ondulations qui transformaient les herbes hautes en un océan vert et houleux.
« Je pense que oui. »
« Nous ne pouvons pas rester plus longtemps, » intervint Matt derrière eux. « Les drones vont détecter nos sources de chaleur. »
De nouveau, Ganesh ressentit des frémissements sous son crâne. Il crut que le flot de données familiers allait se déverser en lui, mais sa biopuce demeura muette.
« Rentrons, » dit-il. « On ne trouvera aucun indice dans le coin. »
« Putain, c'est crade !»
Ava avait trépané le crâne d'un homme d'une trentaine d'années à l'aide d'une scie confiée par Matt, puis lui avait retiré le cerveau qu'elle avait étalé sur une planche, nettoyée et posée sur des tréteaux. Ganesh maintenait le rayon de la lampe sur les mains ensanglantées de son équipière. Il se trouvait seul dans la petite salle annexe de la galerie où gisaient les cadavres. Ni Matt, ni Scott, ni les autres n'avaient voulu les assister pour cette besogne qui leur répugnait. Les explications de Ganesh ne les avaient pas vraiment convaincus de la nécessité d'ouvrir la tête d'un mort, mais Matt avait fini par y consentir malgré les vitupérations de Scott. Ils attendaient un peu plus loin. Ava trancha le cerveau par le sillon entre les deux hémisphères. La lame affûtée du couteau fourni par Matt sectionna sans résistance les faisceaux des fibres nerveuses. Normalement, on devrait trouver la biopuce dans les plis du cortex. La précision des gestes d'Ava, son calme, impressionnait Ganesh. Lui avait toujours eu horreur des dissections, même virtuelles, auxquelles l'avaient contraint ses professeurs pendant ses 4 années de collège.
À mon avis, la biopuce est installée dans l'hémisphère gauche, le cerveau rationnel.
Elle commença à couper le lobe gauche en fines lamelles, qu'elle coucha ensuite sur la planche et palpa, pour vérifier qu'elle ne contenait pas un corps étranger.
Tu crois que tu la sentiras au toucher ? Demanda Ganesh. La texture des biopuces est plutôt souple, non ?
Son enveloppe devrait être quand même un peu plus dense que la matière organique.
Elle trouva quelque chose dans la 4e lamelle, une minuscule forme noire de la taille d'une tête d'épingle, qu'elle parvint à extraire avec précaution de la pointe de la lame et à nettoyer du sang et des autres humeurs.
« Un implant de correction génétique », déclara-t-elle après l'avoir examiné.
« Ça suffit largement pour prouver qu'il vient de la cité.
M'étonnerait qu'ils aient des implants dans le pays hors site. »
Ava continua à découper l'hémisphère gauche et retira, à la 6e ou 7e lamelle, une autre forme sombre, un peu plus grande que l'implant, qu'elle déposa délicatement sur la planche.
« La voilà !»
Malgré le sang qui la recouvrait, ils distinguèrent avec netteté les lueurs bleutées émises par la biopuce.
Dingue. Elle a beau être en ADN de synthèse, elle continue de fonctionner même après avoir été extraite de son milieu, murmura Ava.
Ganesh détourna quelques instants le rayon de la lampe et le promena sur le sol et les murs de la petite pièce.
« Y a rien par là !» ironisa Ava.
« C'est juste que j'en ai marre de te voir tripatouiller là-dedans. »«
Sensible, notre fouineur, hein ?»«
Ça prouve en tout cas que les victimes des ombres appartiennent à la cité. » Les lueurs bleutées de la biopuce continuaient de briller par intermittence.
« Tu en déduis quoi ?»
Ganesh prit un petit temps de réflexion avant de répondre. « Que les ombres ne tuent que les habitants de la cité. »«
Et qu'est-ce qui caractérise les citadins ?»
Ava pointa l'index sur la biopuce.
« Ça, précisément.
Ce qui signifie que, pour tuer, les ombres auraient besoin du canal de la biopuce. »
Un brouhaha enfla tout à coup, en provenance des autres galeries. Un mélange de hurlements et de crépitements caractéristiques d'armes à feu.
« On se bat dans les souterrains !» souffla Ganesh.
Il saisit son tas et se précipita vers la sortie, suivi d'Ava. Ils traversèrent la galerie des corps et s'engagèrent dans le passage où Matt, Scott et quelques autres attendaient.
« Bougez pas, salopard !»
La voix de Scott tapit dans une zone d'obscurité.
« Et qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ganesh. « Fais pas l'innocent et jette tout de suite ton arme ! Tes petits copains viennent de débarquer par l'entrée des galeries pour nous massacrer !»«
Quels petits copains ?»
Ganesh laissa tomber son tase et tenta de repérer la silhouette de Matt dans l'obscurité. Mais le rayon de la lampe ne révélait personne d'autre que Scott, qui braquait son arme sur eux.
« Tu t'es assez foutu de notre gueule !»
aboya Scott.
« On va peut-être crever, mais toi et ta copine, vous allez crever avec nous !»
Si l'agneau se change parfois en lion, jamais le lion ne se change en agneau. Le faible peut devenir fort. Le fort ne s'abaisse jamais à devenir faible. Si un lion te paraît doux comme un agneau, sache qu'il ne s'agit que d'une ruse. Proverbe hors site de l'agglomération de Villebanne. Pays hors site. D'énormes vagues ballottaient les embarcations devenues incontrôlables. Les branches d'arbres qui flottaient sur le fleuve les percutaient parfois de plein fouet. Delune et Naya avaient perdu l'équilibre à plusieurs reprises et roulé sur les troncs du plancher, se rattrapant de justesse au bastingage. Arc-bouté à la barre, submergé par les paquets d'eau, Marla tentait, tant bien que mal, de maîtriser le radeau. Des éclairs tombaient du ciel noir et frappaient les rochers hérissant les collines environnantes. Les bourrasques d'un vent violent soulevaient et gonflaient la voile dont les attaches de cordes menaçaient de se rompre à tout moment.
« Venez vous réfugier avec nous !»
La voix de Liselot, agrippée à la poignée de la porte entr'ouverte de l'abri central, avait dominé les grondements de tonnerre, les sifflements du vent, le fracas des vagues frappant le radeau. Delune prit Naya par la main. Les gîtes incessantes rendant l'équilibre précaire, il leur fallut du temps pour franchir le court espace qui les séparait de la construction. Ils parvinrent à s'y engouffrer. Liselot referma la porte derrière eux. Assis contre une cloison, Louvik serrait contre lui ses deux enfants terrorisés.
« Et Marla ?» demanda Delune en se laissant choir sur le plancher aux côtés de Naya.
« Elle a l'habitude. »
Liselot s'assit près de Louvik et prit Han, sa fille, dans ses bras.
« Nous avons déjà affronté des tempêtes.
Aussi fortes que celle-ci ? »
Liselot secoua la tête.
« Jamais.
Mais des voyageurs nous avaient dit que la navigation sur Rhône était très dangereuse. »
Ils crurent à plusieurs reprises que le radeau chavirait. À chaque fois, il retomba à plat comme s'il chutait d'une hauteur de plusieurs mètres.
Des paquets d'eau submergèrent le toit de l'abri central. Des objets flottants le percutèrent avec une telle violence que l'ensemble de sa structure craqua et gémit. Il n'aurait eu aucune chance de rejoindre la rive du fleuve à la nage, et Delune espérait que l'embarcation tiendrait le coup. Pelotonnée contre lui, Naya ne bougeait pas ni ne parlait, mais elle tressautait à chacun des chocs qui ébranlaient les troncs et les cloisons de l'abri. Le relatif silence qui redescendit sur le fleuve leur laissa croire qu'ils avaient passé le cœur de la tempête. Mais les grondements, les sifflements, les tourbillons, les chocs sourds des objets flottants reprirent de plus belle, et ils furent de nouveau soumis aux gîtes brusques et incessantes du radeau.
« Quand est-ce que ça va cesser ?»
soupira Naya. Elle rêvait de terre ferme sous ses pieds, d'une maison au toit solide et au mur épais.
Sans les bras de Delune refermés sur elle, la terreur l'aurait sans doute rendue folle. Elle n'avait jamais cru au ciel, ni aux créatures intermédiaires entre les dieux et les hommes. Et le prophète, dont elle avait bu les paroles dans le noyau, l'avait confortée dans ses convictions. Et les prières de sa grand-mère lui venaient spontanément aux lèvres. Même si la vie se montrait souvent ironique, cruelle, elle refusait de perdre la vie alors qu'elle venait de recevoir le cadeau de l'amour de Delune. Une violente secousse ébranla le radeau et projeta tous ses occupants sur les cloisons. Han heurta durement les planches de bois et se mit à pleurer. Liselot la consola contre sa poitrine en lui fredonnant une comptine allemande. Un flot de sang s'échappa de l'arcade sourcilière de la fillette et couvrit de corolles pourpres les vêtements de sa mère. Louvik et Liselot échangèrent quelques mots en allemand. Elle parvint à juguler la plaie à l'aide d'un coussin qu'elle tint appuyé sur le front de Han. Les bruits s'estompèrent peu à peu, et le radeau vogua d'une façon moins chaotique. Au bout d'un moment plus paisible, Delune risqua un coup d'œil à l'extérieur. Le fleuve avait retrouvé un aspect tranquille. Des trouées bleues s'élargissaient dans le ciel. La brise, les légères ondulations de la surface de l'eau et les dégâts sur les garde-corps restaient les seuls vestiges de la tempête qui venait de souffler. N'apercevant pas Marla, Delune contourna l'abri central pour rejoindre la poupe de l'embarcation. Le promontoire où la pilote tenait la barre était vide. Livrée à elle-même, l'embarcation dérivait au gré des remous. Marla avait disparu, emportée par une vague. Il scruta l'eau du regard, ne discerna que des débris d'arbres rassemblés par les courants, comme des troupeaux par des chiens. Naya, puis Louvik, Liselot et les enfants sortirent à leur tour de l'abri. « Je crains qu'il ne soit arrivé malheur à Marla, » déclara Delune. « Elle a disparu. » Liselot traduisit ses paroles à Louvik, qui resta un long moment à observer la surface de l'eau, avant de hocher la tête d'un air résigné.
« J'espère que Yosp et Kolb sont toujours vivants, »
chuchota Naya à l'oreille de Delune. La flottille des Bartlos se regroupa plus loin dans une crique protégée par une carrière rocheuse déchiquetée. Liselot remplaça Marla pour manœuvrer le radeau. Ils débarquèrent sur une grève de terre mêlée de sable pour dresser le bilan de la tempête. Yosp et Kolb avaient survécu, même s'ils paraissaient tous deux plus morts que vifs en sautant du radeau de Kanz.
« Comptez plus sur moi pour embarquer sur un de ces damnés rafiots !»
gronda le trappeur. Les Bartlos avaient perdu une quinzaine de radeaux et une soixantaine de personnes. Au grand étonnement de Naya, ils ne poussèrent aucun cri, aucune plainte. Ils discutèrent calmement et se réorganisèrent en fonction des nouveaux besoins. On comptait également une trentaine de blessés. Certains superficiellement, d'autres souffraient de fractures ou de profondes coupures. Delune alla cueillir des simples qui désinfectaient les plaies et favorisaient la cicatrisation. Aidé de Naya, il fabriqua un onguent à base d'argile et de macérat d'insectes, qu'il appliqua sur les fractures pour accélérer la réparation des os. Ils décidèrent d'établir leur bivouac dans la crique et œuvrèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque l'obscurité se fut posée comme un linceul sur les environs, Yosp, agité, vint rejoindre Delune et Naya, encore affairée à soigner un garçon d'une dizaine d'années.
« Les heures me disent, ils vont devenir méchants. Nous devons partir. »«
On ne peut pas les abandonner, » objecta Naya. « Ils ont besoin de nous. On se défendra s'ils nous agressent. »«
Les heures me disent, il faut partir, »
insista Yosp. Des éclats de panique traversaient ses yeux globuleux. Delune ne lui prêta aucune attention, concentrée sur sa tâche. Les derniers nuages s'étaient enfuis et avaient laissé le ciel à la lune et à ses traînes d'étoiles. Delune acheva de consolider la telle à la jambe du garçon à l'aide de tiges souples et résistantes. Lorsque Naya et lui se relevèrent, les Bartlos se dressaient autour d'eux, immobiles, leurs visages métamorphosés en masques durs, menaçants.
« Bon Dieu !» s'exclama Kolb. « On dirait qu'ils ont l'intention de nous bouffer tout cru !»
Les maladies dites métamorphes sont apparues quelque temps après la Grande Guerre, fruit probable des résidus chimiques, génétiques et nucléaires abandonnés par l'ancienne civilisation. J'ai assisté un jour, un soir plutôt, à l'une de ces étonnantes métamorphoses qui transforma une femme ordinaire en une monstrueuse créature à la violence sidérante. 6 hommes furent nécessaires pour la maîtriser.
Elle avait au préalable éventré plusieurs passants des deux sexes et arraché leurs entrailles avec une force et une précision effarantes. Elle m'a fait penser à ces cas de possession démoniaque décrits dans les livres de l'ancienne civilisation. En pays hors-site, les métamorphoses n'étaient pas l'œuvre des démons, mais des pathologies qui affectaient une grande partie de la population. Souvent, elles se déclaraient à certaines heures, par exemple la tombée de la nuit ou lors des pleines lunes. Elles pouvaient être aussi liées à des particularités climatiques. Le processus était toujours le même. Un être inoffensif, voire aimable, devenait tout à coup un tueur sanguinaire, sur lequel la raison n'avait plus de prise. La crise durait en général une ou deux heures, puis elle s'interrompait aussi soudainement qu'elle s'était déclarée. Et l'être, hébété, était rendu à lui-même, à sa véritable nature, incapable de se souvenir des horreurs commises. Les populations hors-site luttaient à leur manière contre les maladies métamorphes en bouclant les éléments atteints dans des cages de fer ou d'autres cachots. Mais lorsqu'un clan tout entier était contaminé, il ne restait d'autre choix que d'abattre l'ensemble de ses membres, une opération appelée « battue sanitaire ». Les hommes valides des autres clans se rassemblaient, équipés d'armes à feu ou d'armes blanches, et formaient un gigantesque filet qui se refermait inexorablement sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant du clan infecté.
« T'as ton flingue, Naya ?» murmura Kolb.
Le cercle des Barthlos, qui brandissaient couteaux, piques, arcs, se refermait autour de leurs hôtes. « Voilà ce dont tentait de nous prévenir Yosp, » fit Delune. « Des métamorphes. Tendra m'en avait parlé. »«
Des métamorphes ?» releva Naya.
« Des gens qui, à certains moments, se transforment en monstres sanguinaires. Ça vient tout juste de me revenir. »«
Tu pouvais pas t'en souvenir plus tôt ?»
siffla Kolb.
« Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux ?»«
Seulement attendre qu'ils redeviennent normaux. Naya n'aura pas assez de balles pour les arrêter tous. »
Delune lança un coup d'œil par-dessus son épaule. Ils étaient moins nombreux entre l'eau et eux. La seule façon de se sortir du piège était de forcer le passage en direction de Rhône, bondir sur la passerelle formée par les bateaux aboutés, détacher le dernier d'entre eux et fuir par le fleuve.
« À mon signal, Naya, tu tires dans ceux qui sont entre le fleuve et nous, et on fonce tous ensemble sur les radeaux en louvoyant pour éviter les flèches. »«
Ensuite, »
souffla le trappeur, « on détache le dernier radeau et on essaie de les semer. Quelqu'un a une meilleure idée ?»
Les Barthlos continuaient d'avancer sur eux en silence. Quelques-uns étaient nus. La métamorphose gonflait leurs muscles, arrondissait leurs yeux, rendait leurs faces bestiales, hideuses. Naya glissa la main dans sa poche, empoigna la crosse de son pistolet et glissa l'index dans le pontet.
« À trois, on fonce. Prêt ?»
Delune marqua un temps.
« Un, deux,
trois !»
Naya se retourna et ouvrit le feu sur les hommes et les femmes déployés devant le fleuve. Elle pressa la détente à quatre reprises, faisant mouche à chaque fois, et ouvrit une brèche face au fleuve. Ils s'élancèrent en direction des embarcations. Le temps que les Barthlos réagissent, ils parvinrent à sauter sur le premier radeau de la passerelle et, franchissant les gardes-corps, passèrent de l'une à l'autre des embarcations. Delune n'eut pas besoin d'aider Yosp à franchir les obstacles. La peur lui donnait des ailes. Naya prit le temps de se retourner pour décocher une nouvelle rafale de trois balles. Trois des poursuivants s'écroulèrent. Les fuyards mirent à profit le moment de flottement engendré par la précision meurtrière du tir pour gagner le radeau situé à l'extrémité de la passerelle. Delune attendit que ses trois compagnons aient passé le dernier garde-corps pour trancher les entraves de cordes à coups de serpe. Kolb enfonça dans la vase l'extrémité ferrée de la perche dont disposait chaque pilote et poussa dessus de toutes ses forces pour donner de l'élan à l'embarcation et l'entraîner vers le courant. Les Barthlos se répartissaient déjà dans les autres radeaux et commençaient eux aussi à les diriger vers le centre du fleuve, cherchant à leur couper le chemin. Pendant que le trappeur continuait de s'arc-bouter sur la perche, Delune s'installa à la poupe surélevée et prit la barre. Naya se posta à la poupe, le bras tendu, prête à ouvrir le feu sur les Barthlos les plus proches. Yosp, lui, se réfugia dans l'abri central. Delune évalua la direction du vent et comprit qu'il lui suffisait d'actionner la corde placée à côté de la barre pour hisser la voile. Elle monta le long du mât en claquant et se gonfla presque aussitôt. Le radeau s'inséra rapidement dans le courant et tenta de prendre de vitesse les autres embarcations qui se déployaient progressivement sur le fleuve pour lui barrer le passage. Des flèches volèrent en sifflant autour d'eux et se fichèrent dans les planches de l'abri. Naya riposta de deux balles qui n'atteignirent personne. mais incitèrent à la prudence. De l'une, choisit de naviguer tout droit, pour continuer de bénéficier de la force conjuguée du vent et du courant. Mais les poursuivants, connaissant parfaitement leurs embarcations, avaient eux aussi hissé leurs voiles, et tendu un filet dont les mailles se resserraient peu à peu.
« Nom de Dieu !» grogna Kolb. « Ils vont nous coincer !»